le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Ce soir, le Proton se rebiffe va parler d'un excellent livre, malheureusement très recommandable. Je dis malheureusement parce que la situation qu'il décrit est tout à fait alarmante. C'est un livre qui s'appelle « Menaces sur nos neurones », sous-titre « Alzheimer, Parkinson et ceux qui en profitent ». C'est de Marie Grossman, G-R-O-S-M-A-N, et Roger Langlais. Et c'est paru chez Babel, l'une des collections d'Actes Sud. Le titre est parfaitement parlant. Il s'agit d'un essai qui rassemble un très grand nombre d'analyses et d'avertissements quant aux innombrables substances que les industries chimiques, pharmaceutiques et les industries tout court d'ailleurs diffusent allègrement dans l'univers en général, la planète en particulier et surtout finalement dans nos corps. Le livre est remarquablement bien documenté, les deux auteurs ne sont pas des rigolos ou des paranoïaques et c'est ce qui fait tout l'intérêt de leur livre. Je vais commencer directement par la page 141 qui, après une longue présentation de toutes les substances qui frappent les tout-petits, les bébés, les tout-petits, les enfants, eh bien, il y a le quatrième chapitre qui s'intitule « Exposition à tous les âges ». Après les expositions précoces, notre cerveau continue à subir toutes sortes d'agressions. Il est certes parvenu à son développement adulte, et sa résistance est plus grande, mais la diversité des risques et le nombre des expositions augmentent. Certaines provoquent des affections rapidement visibles, notamment quand il s'agit d'intoxications aiguës. D'autres induisent des dégradations plus insidieuses, préparant à des pathologies tardives. La manipulation directe des produits chimiques, notamment au travail ou dans le cadre du bricolage et des activités d'entretien, amplifie considérablement l'intensité des contaminations et leur répétition. En outre, ce sont désormais des décennies d'expositions qui vont se succéder sans laisser de répit à l'organisme, le soumettant à une agression continue et multiple. Décennies durant lesquelles les substances biopersistantes, à l'instar du plomb et du mercure, continuent de s'accumuler et de produire leurs effets. Des effets que les valeurs limites réglementaires censées nous protéger ignorent le plus souvent, car elles sont fixées en fonction de tests toxicologiques ne prenant pas en compte les affections survenant à long terme et n'incluant pas les faibles étant guillemets, doses en synergie complexe. Plus de 100 000 substances différentes figurent sur les listes de l'Union européenne, dont 10 000 sont produites en quantité supérieure à 10 000 tonnes par an et 20 000 en quantité comprise entre 1 et 10 tonnes. L'industrie chimique de l'Union européenne est longtemps restée la première du monde. suivi par celle des États-Unis avec 28% de la valeur de la production. C'est encore le cas au début des années 2000, où l'Union européenne représentait un tiers de la production mondiale, estimée à 1244 milliards d'euros. Le lobby de la chimie en a tiré un poids considérable et s'est doté de structures de pression au niveau national et européen pour peser contre les décisions de santé publique susceptibles de réduire ces marchés. Pour peser plus efficacement encore, il s'est allié avec tous les grands secteurs, d'autant que les industries transformant ces substances chimiques en produits manufacturés ou les utilisant dans le cadre de leur fonctionnement ordinaire couvrent un champ infiniment plus vaste. L'agriculture, la plasturgie, les médicaments, l'électronique, les produits ménagers, la construction. Et contribuent à introduire dans notre environnement quotidien ces substances en les associant selon des millions de compositions différentes. Pour ne prendre que les substances provenant directement de l'industrie chimique avant transformation, on estime que leur production annuelle est passée de 1 million de tonnes dans les années 1930 à 400 millions aujourd'hui. Ces quelques données permettent de prendre conscience que l'industrialisation n'a pas fait que soumettre notre environnement à des pollutions plus ou moins occasionnelles, mais l'a abondamment imprégné, y compris dans les zones rurales, où le nombre de pesticides utilisés n'a cessé de croître. Une part importante de ces substances est neurotoxique et dûment répertoriée comme telle. En 2006, l'Agence de sécurité sanitaire environnementale et du travail proposait de considérer en priorité les principaux agents neurotoxiques qu'elle regroupait en une liste qui donne le vertige. Ouvrez les guillemets. Aluminium, arsenic inorganique, bismuth, bromure, dérivés organiques de l'étain. Lithium, manganèse, mercure inorganique et organique, plomb, thallium, des pesticides organochlorés, chlordane, DDT, des pesticides organophosphorés, les pesticides carbamates et anticholinestérasiques, tous les solvants organiques, hydrocarbures, hydrocarbures halogénés, alcool, cétone, glycol, éther de glycol, amide, éther, ester, etc. Des gaz, acide cyanhydrique, monoxyde de carbone, phosphine, sulfure d'hydrogène, etc. Des monomères, acrylamide, métacrylate de méthyle, styrène, etc. Qu'une autorité sanitaire française établisse un tel tableau accessible au public était un progrès, même s'il y manquait de nombreuses substances que n'importe quel toxicologue rangerait immédiatement parmi les neurotoxiques envahissants. Les fluorures, les PBDE, les perchlorates, le camphre, des édulcorants et quelques drogues dont le tabac et l'alcool. Sans parler des neurotoxines bactériennes qui intéressent notamment l'industrie des armes biochimiques et les firmes pharmaceutiques. Il y manquait aussi les nombreuses catégories de médicaments ayant des effets secondaires très pernicieux sur le système nerveux central, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Et nous passons maintenant à un deuxième grand paragraphe de ce chapitre qui s'intitule « Aluminium au robinet, en pâtisserie ou en sauce ». Les étiquetages des aliments ne mentionnent pas toujours sa présence. Quand ils le font, le consommateur n'est guère plus avancé car il ignore généralement ce que signifie E173. En un mot, l'aluminium passe souvent inaperçu, même quand il est présent en quantité, ce qui est fréquent, surtout dans les condiments, les biscuits, les autres boissons. Ce masquage complique la tâche de ceux qui préféreraient l'éviter. Ce neurotoxique puissant embarrasse terriblement les industriels et les politiques, comme nous allons le découvrir. Bien que certaines informations aient commencé à circuler au-delà de la communauté scientifique, le grand public sous-estime encore son réel impact. Il faut dire que le ministère de la Santé ne se montre pas très bavard sur le sujet. Pourtant, les toxicologues le redoutent depuis un demi-siècle et s'émeuvent de le voir aujourd'hui introduit partout. Il s'agit désormais du métal le plus utilisé dans l'alimentation industrielle. Et on le retrouve même dans l'eau qui coule du robinet de centaines de millions de personnes dans le monde. Sa présence est essentiellement due à l'usage des sels d'aluminium par les sociétés des eaux pour la rendre plus transparente. En France, entre les années 1960 et 1990, les Français qui cuisinaient avec une eau du robinet chargée en aluminium et qui la buvaient, se comptaient par dizaines de millions. Aujourd'hui, compte tenu de l'abandon de l'aluminium dans un certain nombre de stations de traitement, environ 16 millions continuent à en recevoir. Les quantités consommées dépassent la norme chez un quart d'entre eux. Ce procédé a été utilisé dans une indifférence quasi complète, jusqu'à ce qu'une rumeur inquiétante commence à circuler parmi les observateurs avertis et incite certaines grandes villes à l'abandonner subrepticement. En 1978, la ville de Paris l'a fait remplacer par un traitement à base de fer. L'opération de substitution menée avec une parfaite discrétion est passée inaperçue des usagers. Le bénéfice en termes de santé n'était pas négligeable, puisqu'il faisait tout bonnement disparaître une substance qui contaminait le cerveau des Parisiens sans créer de scandale. On venait de constater en effet que l'eau traitée à l'aluminium provoquait des encéphalopathies et des troubles cognitifs chez de nombreux patients quand on s'en servait pour préparer les liquides de dialyse. Des cas relatés dans la littérature scientifique en 1972 avaient révélé cette relation et conduit les médecins à noter des effets tels que perte de mémoire, difficulté de concentration, dépression, hallucination, troubles paranoïdes, anomalies électroencéphalographiques, voire décès. Au cours des années suivantes, l'examen des tissus cérébraux de personnes dialysées décédées avait aussi fait apparaître un lien entre la durée de dialyse et les concentrations d'aluminium dans leur matière grise. Des autopsies ont montré par la suite des taux élevés dans les os, l'aluminium ayant comme le plomb une tendance à s'accumuler dans le squelette à la place du calcium, constituant ainsi un réservoir de relargage, d'où il se déverse continuellement dans le flux sanguin, contaminant le système nerveux et fragilisant les tissus osseux. En menant une enquête sur les fibres d'amiante intégrées au ciment des canalisations en 1995, nous sommes tombés par hasard sur des recherches internationales sur les effets de l'aluminium dans l'eau de consommation. Nous avons alors commencé à examiner l'état des connaissances scientifiques sur son rôle en tant que cofacteur de la maladie d'Alzheimer. Ceci fut fastidieux, Internet n'étant pas encore développé en France. S'il était indéniable que les cas se concentraient chez les personnes âgées, nous constations que de nombreux chercheurs, contrairement au discours des autorités, ne se laissaient pas aller à considérer que le vieillissement était une cause de la maladie, mais y voyaient surtout une condition de son apparition liée à son développement lent. En effet, le temps de latence de cette pathologie cachant son évolution insidieuse durant des décennies confirmait que ses causes initiales se situaient en amont de la vieillesse. Cette dernière pouvait au mieux être retenue comme un contexte de vulnérabilité plus grande, jouant éventuellement un rôle de cofacteur. Mais, sauf à se laisser bercer, il sautait aux yeux que vouloir attribuer une telle maladie à l'âge plus ou moins avancé des victimes était aussi peu pertinent que d'imputer au vieillissement le mésothélium, le cancer de la plèvre dû à l'amiante, en arguant que cette pathologie touchait surtout les retraités. Le gouvernement français, qui venait d'interdire l'amiante à l'origine de ce cancer, nous suggérait involontairement ce parallèle en répétant que le temps de latence de la maladie l'avait empêché d'établir plus tôt son rôle. L'argument était fallacieux car l'état réel des connaissances sur les effets de ces fibres aurait dû amener les décideurs politiques à les interdire bien avant. Mais il avait finalement un mérite. Son hypocrisie montrait que les impostures sanitaires se nourrissent du temps séparant les causes de leurs effets. Le 13 octobre 1998, nous remettions un article d'une gravité exceptionnelle au rédacteur en chef qui dirigeait alors François Yves Tréhard, dont nous connaissions la détermination sur les problèmes de santé publique. Le texte faisait état d'une vaste étude épidémiologique menée en France, révélant que l'aluminium présent dans l'eau du robinet multipliait par 2 le nombre des cas d'Alzheimer quand son taux atteignait 100 microgrammes par litre, ce qui était fréquent. Le travail de l'INSERM portait sur 75 communes du sud de l'Hexagone et avait mobilisé toute une équipe de chercheurs durant 12 ans. Le directeur de l'étude, Jean-François D'Artigue, enchanté par notre curiosité, nous avait révélé ce résultat stupéfiant. Il se montrait heureux de nous voir diffuser ses conclusions, car son équipe les avait déjà vérifiées interminablement. Cela fait déjà 2 ans que le gouvernement nous fait vérifier nos résultats, nous tournons en rond. La démonstration est faite, nous confiait-il. Il était évident que le ministère de la Santé rechignait à l'idée du scandale qui risquait d'éclater.
Sa fiancée, que portera-t-il à sa fiancée? Un anneau d'argent ou bague dorée? Va, mon ami, va, la lune se lève. Va, mon ami, va, la lune s'en va.
Va, mon ami, va.
Chemise au vent, cheveux dépeignés, la chemise au vent, cheveux dépeignés, peut-être il te trompe avec une fée. Va mon ami, va, la lune se lève, va mon ami, va, la lune s'en va, va mon ami, va, la lune se lève, va mon ami, va. La lune s'en va, on cueille à minuit l'herbe des vallées, on cueille à minuit l'herbe des vallées pour en faire un filtre afin d'être aimé. Va mon ami, va, la lune se lève.
Le proton se rebiffe. Écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. We'll be right back. se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Ce soir, le Proton sur Bif va parler d'un excellent livre, malheureusement très recommandable. Je dis malheureusement parce que la situation qu'il décrit est tout à fait alarmante. C'est un livre qui s'appelle « Menace sur nos neurones », sous-titre « Alzheimer, Parkinson et ceux qui en profitent ». C'est de Marie Grossman, G-R-O-S-M-A-N, et Roger Langlais. Et c'est paru chez Babel, l'une des collections d'Actes Sud. Le titre est parfaitement parlant. Il s'agit d'un essai qui rassemble un très grand nombre d'analyses et d'avertissements quant aux innombrables substances que les industries chimiques, pharmaceutiques, et les industries tout court d'ailleurs, diffusent allègrement dans l'univers en général, la planète en particulier, et surtout finalement dans nos corps. Le livre est remarquablement bien documenté, les deux auteurs ne sont pas des rigolos ou des paranoïaques, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de leur livre. Je vais commencer directement par la page 141 qui, après une longue présentation de toutes les substances qui frappent les tout-petits, les bébés, les tout-petits, les enfants, eh bien, il y a le quatrième chapitre qui s'intitule « Exposition à tous les âges ». Après les expositions précoces, notre cerveau continue à subir toutes sortes d'agressions. Il est certes parvenu à son développement adulte, et sa résistance est plus grande, mais la diversité des risques et le nombre des expositions augmentent. Certaines provoquent des affections rapidement visibles, notamment quand il s'agit d'intoxications aiguës. D'autres induisent des dégradations plus insidieuses, préparant à des pathologies tardives. La manipulation directe des produits chimiques, notamment au travail ou dans le cadre du bricolage et des activités d'entretien, amplifie considérablement l'intensité des contaminations et leur répétition. En outre, ce sont désormais des décennies d'expositions qui vont se succéder sans laisser de répit à l'organisme, le soumettant à une agression continue et multiple. Décennies durant lesquelles les substances biopersistantes, à l'instar du plomb et du mercure, continuent de s'accumuler et de produire leurs effets. Des effets que les valeurs limites réglementaires censées nous protéger ignorent le plus souvent, car elles sont fixées en fonction de tests toxicologiques ne prenant pas en compte les affections survenant à long terme et n'incluant pas les faibles étant guillemets, doses en synergie complexe. Plus de 100 000 substances différentes figurent sur les listes de l'Union européenne, dont 10 000 sont produites en quantité supérieure à 10 000 tonnes par an, et 20 000 en quantité comprise entre 1 et 10 tonnes. L'industrie chimique de l'Union européenne est longtemps restée la première du monde, suivie par celle des États-Unis avec 28% de la valeur dans la production. C'est encore le cas au début des années 2000, où l'Union européenne représentait un tiers de la production mondiale, estimée à 1244 milliards d'euros. Le lobby de la chimie en a tiré un poids considérable et s'est doté de structures de pression au niveau national et européen pour peser contre les décisions de santé publique susceptibles de réduire ces marchés. Pour peser plus efficacement encore, il s'est allié avec tous les grands secteurs, d'autant que les industries transformant ces substances chimiques en produits manufacturés ou les utilisant dans le cadre de leur fonctionnement ordinaire couvrent un champ infiniment plus vaste. L'agriculture, la plasturgie, les médicaments, l'électronique, les produits ménagers, la construction. Et contribuent à introduire dans notre environnement quotidien ces substances en les associant selon des millions de compositions différentes. Pour ne prendre que les substances provenant directement de l'industrie chimique avant transformation, on estime que leur production annuelle est passée de 1 million de tonnes dans les années 1930 à 400 millions aujourd'hui. Ces quelques données permettent de prendre conscience que l'industrialisation n'a pas fait que soumettre notre environnement à des pollutions plus ou moins occasionnelles, mais l'a abondamment imprégné, y compris dans les zones rurales, où le nombre de pesticides utilisés n'a cessé de croître. Une part importante de ces substances est neurotoxique et dûment répertoriée comme telle. En 2006, l'Agence de sécurité sanitaire environnementale et du travail proposait de considérer en priorité les principaux agents neurotoxiques qu'elle regroupait en une liste qui donne le vertige. Ouvrez les guillemets. Aluminium, arsenic inorganique, bismuth, bromure, dérivés organiques de l'étain, lithium, manganèse, mercure inorganique et organique, plomb, thallium, des pesticides organochlorés, chlordane, DDT, des pesticides organophosphorés, les pesticides carbamates et anticholinestérasiques, tous les solvants organiques, hydrocarbures, hydrocarbures halogénés, alcool, cétone, glycol, éther de glycol, amide, éther, ester, etc. Des gaz, acide cyanhydrique, monoxyde de carbone, phosphine, sulfure d'hydrogène, etc. Des monomères, acrylamide, métacrylate de méthyle, styrène, etc. Qu'une autorité sanitaire française établisse un tel tableau accessible au public était un progrès, même s'il y manquait de nombreuses substances que n'importe quel toxicologue rangerait immédiatement parmi les neurotoxiques envahissants. Les fluorures, les PBDE, les perchlorates, le camphre, des édulcorants et quelques drogues dont le tabac et l'alcool. Sans parler des neurotoxines bactériennes qui intéressent notamment l'industrie des armes biochimiques et les firmes pharmaceutiques. Il y manquait aussi les nombreuses catégories de médicaments ayant des effets secondaires très pernicieux sur le système nerveux central, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Et nous passons maintenant à un deuxième grand paragraphe de ce chapitre qui s'intitule « Aluminium au robinet, en pâtisserie ou en sauce ». Les étiquetages des aliments ne mentionnent pas toujours sa présence. Quand ils le font, le consommateur n'est guère plus avancé car il ignore généralement ce que signifie E173. En un mot, l'aluminium passe souvent inaperçu, même quand il est présent en quantité, ce qui est fréquent, surtout dans les condiments, les biscuits, les autres boissons. Ce masquage complique la tâche de ceux qui préféreraient l'éviter. Ce neurotoxique puissant embarrasse terriblement les industriels et les politiques, comme nous allons le découvrir. Bien que certaines informations aient commencé à circuler au-delà de la communauté scientifique, le grand public sous-estime encore son réel impact. Il faut dire que le ministère de la Santé ne se montre pas très bavard sur le sujet. Pourtant, les toxicologues le redoutent depuis un demi-siècle et s'émeuvent de le voir aujourd'hui introduit partout. Il s'agit désormais du métal le plus utilisé dans l'alimentation industrielle. Et on le retrouve même dans l'eau qui coule du robinet de centaines de millions de personnes dans le monde. Sa présence est essentiellement due à l'usage des sels d'aluminium par les sociétés des eaux pour la rendre plus transparente. En France, entre les années 1960 et 1990, les Français qui cuisinaient avec une eau du robinet chargée en aluminium et qui la buvaient, se comptait par dizaines de millions. Aujourd'hui, compte tenu de l'abandon de l'aluminium dans un certain nombre de stations de traitement, environ 16 millions continuent à en recevoir. Les quantités consommées dépassent la norme chez un quart d'entre eux. Ce procédé a été utilisé dans une indifférence quasi complète, jusqu'à ce qu'une rumeur inquiétante commence à circuler parmi les observateurs avertis, et incite certaines grandes villes à l'abandonner subrepticement. En 1978, la ville de Paris l'a fait remplacer par un traitement à base de fer. L'opération de substitution menée avec une parfaite discrétion est passée inaperçue des usagers. Le bénéfice en termes de santé n'était pas négligeable, puisqu'il faisait tout bonnement disparaître une substance qui contaminait le cerveau des Parisiens sans créer de scandale. On venait de constater en effet que l'eau traitée à l'aluminium provoquait des encéphalopathies et des troubles cognitifs chez de nombreux patients quand on s'en servait pour préparer les liquides de dialyse. Des cas relatés dans la littérature scientifique en 1972 avaient révélé cette relation et conduit les médecins à noter des effets tels que perte de mémoire, difficulté de concentration, dépression, hallucination, troubles paranoïdes, anomalies électroencéphalographiques, voire décès. Au cours des années suivantes, l'examen des tissus cérébraux de personnes dialysées décédées avait aussi fait apparaître un lien entre la durée de dialyse et les concentrations d'aluminium dans leur matière grise. Des autopsies ont montré par la suite des taux élevés dans les os, l'aluminium ayant comme le plomb une tendance à s'accumuler dans le squelette à la place du calcium, constituant ainsi un réservoir de relargage, d'où il se déverse continuellement dans le flux sanguin, contaminant le système nerveux et fragilisant les tissus osseux. En menant une enquête sur les fibres d'amiante intégrées au ciment des canalisations en 1995, nous sommes tombés par hasard sur des recherches internationales sur les effets de l'aluminium dans l'eau de consommation. Nous avons alors commencé à examiner l'état des connaissances scientifiques sur son rôle en tant que cofacteur de la maladie d'Alzheimer. Ceci fut fastidieux, Internet n'étant pas encore développé en France. S'il était indéniable que les cas se concentraient chez les personnes âgées, nous constations que de nombreux chercheurs, contrairement au discours des autorités, ne se laissaient pas aller à considérer que le vieillissement était une cause de la maladie, mais y voyaient surtout une condition de son apparition liée à son développement lent. En effet, le temps de latence de cette pathologie cachant son évolution insidieuse durant des décennies confirmait que ses causes initiales se situaient en amont de la vieillesse. Cette dernière pouvait au mieux être retenue comme un contexte de vulnérabilité plus grande, jouant éventuellement un rôle de cofacteur. Mais, sauf à se laisser bercer, il sautait aux yeux que vouloir attribuer une telle maladie à l'âge plus ou moins avancé des victimes était aussi peu pertinent que d'imputer au vieillissement le mésothélium, le cancer de la plèvre dû à l'amiante, en arguant que cette pathologie touchait surtout les retraités. Le gouvernement français, qui venait d'interdire l'amiante à l'origine de ce cancer, nous suggérait involontairement ce parallèle en répétant que le temps de latence de la maladie l'avait empêché d'établir plus tôt son rôle. L'argument était fallacieux car l'état réel des connaissances sur les effets de ces fibres aurait dû amener les décideurs politiques à les interdire bien avant. Mais il avait finalement un mérite. Son hypocrisie montrait que les impostures sanitaires se nourrissent du temps séparant les causes de leurs effets. Le 13 octobre 1998, nous remettions un article d'une gravité exceptionnelle au rédacteur en chef qui dirigeait alors France Soir, Yves Tréhard, dont nous connaissions la détermination sur les problèmes de santé publique. Le texte faisait état d'une vaste étude épidémiologique menée en France, révélant que l'aluminium présent dans l'eau du robinet multipliait par 2 le nombre des cas d'Alzheimer quand son taux atteignait 100 microgrammes par litre, ce qui était fréquent. Le travail de l'INSERM portait sur 75 communes du sud de l'Hexagone et avait mobilisé toute une équipe de chercheurs durant 12 ans. Le directeur de l'étude, Jean-François d'Artigues, enchanté par notre curiosité, nous avait révélé ce résultat stupéfiant. Il se montrait heureux de nous voir diffuser ses conclusions, car son équipe les avait déjà vérifiées interminablement. Cela fait déjà 2 ans que le gouvernement nous fait vérifier nos résultats, nous tournons en rond. La démonstration est faite, nous confiait-il. Il était évident que le ministère de la Santé rechignait à l'idée du scandale qui risquait d'éclater. sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité et sans le sou, pensez-y. C'est toujours le proton se rebiffe. Nous continuons à parler du livre « Menace sur nos neurones » paru chez Babel Actes Sud. Et nous allons maintenant passer à un chapitre sur les amalgames dentaires, c'est-à-dire sur ce que les dentistes mettent dans nos caries. Or, il se trouve, vous le savez peut-être, que les dentistes français en particulier n'hésitent pas à mettre du mercure dans ces amalgames. Or, pourtant, chacun sait que le mercure est un neurotoxique violent. D'ailleurs, c'est tout simplement un toxique violent. Je commence donc la lecture de la page 189. Nous avons vu que les études montrant une relation entre le nombre d'amalgames et la quantité de mercure présente dans le cerveau sont nombreuses, de même que celles établissant un lien entre cette exposition et divers troubles neurologiques. Signalons aussi qu'une importante enquête épidémiologique portant sur 20 000 personnes a montré qu'en moyenne, chaque amalgame supplémentaire augmentait le risque de sclérose en plaques de 24%. Ce lien entre sclérose en plaques et amalgame est suspecté depuis les années 1970, quand la grande similitude entre la répartition géographique de la carie et celle de la sclérose en plaques avait été remarquée. Dans les années 2000, plusieurs études cas témoins sont venues confirmer cette association. Le mercure est également un des principaux métaux suspectés dans le déclenchement de la sclérose latérale amyotrophique. La littérature scientifique concernant cette maladie du motoneurone au très sombre pronostic est cependant nettement moins abondante. Dans une revue récente de la littérature, une exposition au mercure est le premier facteur de risque rapporté pour cette neurodégénérescence, suivi du plomb, des solvants et des pesticides organophosphorés. C'est sans doute pour la relation entre exposition à faible dose de mercure et maladie d'Alzheimer que le corpus scientifique est le plus impressionnant. Le cerveau et le sang des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer contient plus de mercure inorganique que ceux des personnes non atteintes. L'exposition à de faibles doses de mercure élémentaire entraîne dans le cerveau un ensemble de perturbations cellulaires caractéristiques du syndrome Alzheimer. Les trois marqueurs de cette pathologie, accumulation de protéines bêta, amyloïdes, hyperphosphorylation de la protéine tau et formation d'amas de neurofibrilles, ont été clairement associés à une exposition au mercure lors d'expérimentations. Tous les porteurs d'amalgames sont exposés aux vapeurs de mercure, mais seules les personnes possédant des mécanismes de détoxication peu efficaces ont un risque élevé de développer la pathologie. Ces mécanismes de détoxication sont en partie sous la dépendance des gènes de l'apolipoprotéine E, molécule impliquée dans l'élimination du mercure stocké dans le cerveau. Mais il est important de souligner que, même si l'on ne possède pas de gènes protecteurs, la maladie a peu de chances de se développer si les expositions toxiques sont réduites. C'est par exemple le cas des populations d'Afrique noire qui possèdent une forte susceptibilité à la maladie d'Alzheimer et qui ont pourtant moins de risques de la développer, même à des âges vénérables. Il existe donc une forte probabilité pour que le mercure des amalgames soit l'un des facteurs étiologiques majeurs de la maladie d'Alzheimer et des autres pathologies neurodégénératives. Le paragraphe suivant s'intitule « Champ de bataille au cœur du cerveau ». Pesticides, mercure, plomb, aluminium, solvants, PCB, PBDE. Les progrès de la biochimie du cerveau et de la toxicologie ne cessent de confirmer les dégâts qui provoquent les substances neurotoxiques. Ils nous permettent aujourd'hui de comprendre un peu plus près comment elles agissent sur nos neurones et, tout d'abord, la manière dont elles parviennent jusqu'à eux. Suivons donc celles qui sont devenues, malgré nous, nos compagnes intimes. Une barrière enveloppe le cerveau pour le protéger contre les substances toxiques apportées par le sang. La barrière hémato-encéphalique BHE. Ce filtre ne laisse entrer en principe que les nutriments et l'oxygène indispensables au fonctionnement du cerveau, très énergivore. Il doit stopper toute substance susceptible de perturber son fragile équilibre, en particulier les xénobiotiques, les substances étrangères. Il interdit aussi l'entrée du cerveau à la plupart des micro-organismes pathogènes. Son étanchéité est assurée par la présence de jonctions serrées entre ces cellules. Les substances candidates à l'entrée dans le sanctuaire cérébral doivent donc traverser ces cellules et pour cela posséder une petite taille et un caractère lipophile, c'est-à-dire aimer les graisses, être soluble dans les corps gras ou les lipides. Ce qui est le cas, hélas, du mercure élémentaire, celui que l'on trouve dans les baromètres, les thermomètres, les amalgames, les ampoules. C'est le cas de nombreux pesticides, paraquat, dieldrine, roténone, organophosphoré. C'est le cas des PCB, des PBDE et des solvants organiques lipophiles, pour ne citer que les intrus les plus préoccupants. D'autres substances ont leur propre sésame pour s'immiscer incognito dans le cerveau. Le plomb, bien que lipophile, entre surtout par les canaux ioniques du calcium. Le méthylmercure leurre les gardes-barrières en se liant à un acide aminé soufré, la cystéine, pour former un couple qui mime un autre acide aminé essentiel soufré, la méthionine. L'aluminium préfère franchir le seuil en prenant le bras de la transférine, protéine de transport du fer, qui dispose d'une invitation permanente. Il s'agit en fait de sa complice habituelle pour pénétrer partout dans l'organisme. Quand il se présente sous forme de poussière, l'aluminium contourne l'entrée principale pulmonaire en empruntant la voie intranasale, comme les parfums, la cocaïne et divers polluants présents dans l'air. Il traverse la fine muqueuse qui tapisse l'intérieur du nez, remonte le long du nerf olfactif, pénètre dans le bulbe olfactif et de là gagne le cerveau. Cet escalier de service devient, par les temps qui courent, très encombré. Seules les plus petites particules sont capables d'emprunter cette voie, comme les particules dites ultra fines et les nanoparticules, quoiqu'on y croise aussi les vapeurs de mercure et des solvants. Devant la profusion des produits mis en circulation, la barrière hémato-encéphalique ressemble de plus en plus à un péage d'autoroute débordé. De plus, une partie d'entre eux inflige à la BHE des dégradations qui diminuent son étanchéité face à divers autres toxiques ayant tendance à accélérer le processus neurodégénératif. Parmi ces saboteurs, on reconnaît le plomb, le mercure, inorganique et organique, l'aluminium, l'alcool, des composants du tabac dans la nicotine, des pesticides, des nanoparticules métalliques, les radiations non-ionisantes comme celles des lignes à haute tension, des téléphones mobiles, des appareils électriques domestiques et professionnels. Je passe maintenant à la page 196. Le paragraphe s'intitule « Des décennies de déni, menteurs comme des arracheurs de dents ». Le cabinet du dentiste se trouve donc aux premières lignes de l'intoxication au mercure. Comment les dentistes ont-ils pu fermer les yeux pendant si longtemps? Et comment continuent-ils à le faire? Ils se croient souvent bien informés par leur presse professionnelle, bien qu'elle ne soit pas plus indépendante de leurs grands annonceurs que celle des médecins. Leur objectivité en souffre. Quand ils veulent défendre l'innocuité des produits qu'ils placent dans notre bouche. Faute de prendre le temps de se plonger dans les études scientifiques, au lieu de se contenter du digeste rassurant des agences sanitaires et de leurs leaders d'opinion, Les dentistes restent généralement inconscients des risques auxquels ils exposent leurs patients, négligeant même le fait que leur corporation en paye le prix fort par des maladies professionnelles en surnombre. L'histoire de leur relation au mercure en offre l'illustration la plus remarquable. Vif argent, c'est ainsi que les Romains appelaient ce fascinant métal en raison de ses reflets et de sa fluidité étonnante. Des siècles plus tard, il prit officiellement le nom de mercure. Une étymologie rêveuse le relie au nom de la planète et au dieu romain des voyages aux sandales ailées. De fait, les vapeurs de mercure sont de grandes voyageuses. La médecine a utilisé le mercure au cours des siècles comme purgatif, antiseptique intestinal, pour réduire les douleurs dentaires des bébés, pour traiter la syphilis et même comme produit de jouvence, ce qui abrégeait bien les vies. Mais quand les médecins appréciaient un produit, même le plus délétère, ils se persuadaient facilement de ses bienfaits en attribuant la mort éventuelle du patient à sa constitution fragile, plus aisément qu'aux médicaments prescrits. Au Moyen Âge, les alchimistes se sont vainement acharnés à transformer le mercure en or, mais ce sont finalement des dentistes qui, entre 1840 et 1860, ont remplacé l'or par le mercure pour obturer les caries en le mélangeant à d'autres métaux. L'invention de cet alliage bien meilleur marché que l'or leur permettait d'élargir leur clientèle au-delà des rares patients pouvant se payer l'orification. Bien que la toxicité du mercure fût alors établie, ces pionniers raillèrent leurs confrères plus prudents et défièrent la principale organisation professionnelle dentaire de l'époque qui, craignant des conséquences sanitaires, avait décidé d'exclure les praticiens osant en poser. Les dentistes exclus créèrent des associations concurrentes, comme l'Association dentaire américaine, très favorable à l'amalgame et liée financièrement aux fabricants. Ils parvinrent à devenir majoritaires. Et l'ADA prit le pouvoir, imposant la thèse de l'innocuité des amalgames. Pourtant, des médecins établirent un lien entre des maladies de leurs patients et leurs amalgames. Ils en appelèrent au congrès, comme le docteur Payne, qui rédigea en 1874 un retentissant article dans le journal médical de Chicago. Certains des 12 000 dentistes des États-Unis se livrent à cette intoxication et je réclame la coopération de la Société médicale d'État en tant que gardienne de la sûreté publique pour obtenir une loi du Congrès édictant que placer toute substance toxique dans les dents est une infraction pénale qui met la population en danger, fermez les guillemets. Mais l'affaire engageait déjà trop de notables et de fournisseurs, sans compter les perspectives de contentieux explosifs. Le lobby dentaire prit notamment argument de la pandémie de caries au cours de la seconde moitié du XXe siècle, et parallèlement à la consommation de sucre, pour banaliser l'usage de l'amalgame dans tous les pays industrialisés. Les utilisations du mercure, qui ne concernaient jusque-là qu'une petite partie de la société, se sont ainsi généralisées à l'ensemble de la population à partir des années 1950-1960. Aujourd'hui, 15 à 17 tonnes de mercure sont placées chaque année dans la bouche des Français. Je continue, page 202. Les dentistes et leurs assistantes. La folie des dentistes a-t-elle remplacé celle des chapeliers qui autrefois travaillaient les chapeaux avec du mercure? Les dentistes et leurs assistantes sont aujourd'hui parmi les professions les plus exposées à ce toxique. Environ 35 000 dentistes français et presque autant d'assistantes sont concernés. Près de 80% continuent à poser des amalgames, ce qui représente le plus grand nombre de travailleurs exposés à cette substance. Ils l'ignorent souvent eux-mêmes, bien que leur contamination soit plus élevée que celle de la population générale, notamment au niveau du cortex cérébral et de l'hypophyse, comme l'ont démontré des études d'autopsie dès 1989. Les dentistes inhalent les vapeurs de mercure qui s'échappent lors des actes de pose, de retrait et de polissage des amalgames. Divers points chauds en émettent aussi dans le cabinet dentaire, comme le rappelle un rapport destiné aux médecins du travail qui suivent la profession. Des déchets d'amalgame restent dans les différents dispositifs du fauteuil, les tuyaux d'aspiration, le crachoir, les filtres, et continuent d'émettre des vapeurs de mercure en grande quantité. Le document a été établi par l'Institut national de recherche et de sécurité, INRS, en 2003, un organisme qui n'est pas du genre à exagérer les risques. L'INRS souligne par ailleurs que la mise en place de séparateurs d'amalgame, obligatoire depuis 2001, destiné à limiter les rejets de mercure dans l'environnement, est finalement à l'origine d'une importante pollution des cabinets en raison de leur manque d'étanchéité. Plusieurs études ont, depuis les années 1990, mis en évidence l'excès de troubles et de pathologies, notamment neurologiques, chez les professionnels dentaires. Ils souffrent davantage d'hérétisme mercuriel, instabilité émotionnelle, fatigue excessive, état dépressif, perte de mémoire, dépression, troubles de la concentration. D'autres symptômes neurologiques complètent ce tableau. Tremblements, troubles visuels, neuropathie périphérique. Une étude britannique a révélé que la profession compte même un des taux de suicide les plus élevés du Royaume-Uni, surtout chez les hommes. On observe aussi chez les dentistes une diminution significative des performances psychomotrices et de la dextérité manuelle, les obligeant parfois à arrêter d'exercer leur métier. Une étude vient de comparer les symptômes observés chez une centaine de dentistes et autant de praticiens non exposés au mercure. Les dentistes souffrent 15 fois plus de pertes de mémoire que leurs confrères, 31,1% versus 2,1%. 4 fois plus de dépression, de troubles de l'humeur et d'insomnie, et 3 fois plus d'anxiété. L'importance des symptômes neurologiques dépend de la quantité d'amalgame posée par les dentistes. Les dentistes et assistantes ont aussi 2 fois plus de cancers cérébraux, glioblastomes et gliomes, que la population générale, alors que le risque d'autres cancers n'est pas plus élevé. Enfin, le mercure est la substance qui accroît le plus le risque de neurinome acoustique, tumeur bénigne du nerf auditif, des dentistes et des assistantes. Thank you. C'était le CD Duet Konzertant. Alors ça s'écrit D-U-E-2-T, plus loin, Konzertant, K-O-N-Z-E-R-T-A-N-T. Un merveilleux CD de duo de guitare, comme on peut s'en douter, que j'aime beaucoup, que je vous inflige régulièrement dans mes émissions, et dont j'espère, pour lequel j'espère une diffusion plus grande. C'est en tout cas toujours sur Radio Libertaire que vous êtes, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité et toujours sans le sou, et vous écoutez le Proton. Ce rebiff, nous parlons de l'excellent livre « Menace sur nos neurones ». J'en viens à la page 208, où commence un paragraphe très long. Je ne sais pas d'ailleurs si je devrais l'appeler un paragraphe, mais enfin bon, et qui est quand même fort surprenant. Le sous-titre de la chose, usine, crématorium et incinérateur. Abordons maintenant un des chapitres les plus macabres. L'air porte des particules et des gaz qui ont un rôle important dans l'empoisonnement des neurones, en passant notamment par les nerfs olfactifs qui conduisent au cerveau. On a vu que l'air de nos maisons n'est pas très recommandable. La pollution venue de l'extérieur complète le tableau. Vapeur de benzène venant du garage ou des stations d'essence proches. Effluves de perchloréthylène émis par les pressings. Solvants issus des peintures. Antifongiques projetés sur les façades ravalées et les toitures. Émanation de centaines de milliers de sites pollués qui régurgitent quotidiennement les gaz délétères confessant un siècle d'enfouissements incontrôlés de déchets industriels. À elles seules, les milliers d'usines à gaz qui ont alimenté les entreprises et les foyers français jusque dans les années 1970 ont laissé d'invraisemblables quantités de polluants neurotoxiques et cancérigènes dans les sols, souvent en plein centre-ville, y compris à Paris. Benzène, toluène et xylène ont gorgé ces terrains qui, depuis la fermeture des usines, ont vu pousser des logements, quand ce ne sont pas des écoles, des stades ou des squares. Le Stade de France à Saint-Denis a été construit sur l'un de ces sites sans qu'on s'en préoccupe assez tôt. Ouvrez les guillemets. En 1993, lors des travaux de terrassement, la pollution s'est révélée si grave que le préfet a dû exiger le traitement de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de terre qui contenaient trop de cyanure et d'hydrocarbures volatiles, fermez les guillemets, explique Frédéric Auger, le chercheur au CNRS qui a conçu la méthode d'inventaire des sites potentiellement pollués pour le ministère de l'Environnement. Il note que cette coûteuse décontamination, ouvrez les guillemets, n'a pas empêché une nouvelle contamination du site quand la nappe phréatique polluée s'étendant sous le stade est remontée et a imprégné une nouvelle fois la pelouse après des pluies abondantes, fermez les guillemets. On a longtemps cru qu'avec le temps, les produits retournaient à l'état de poussière neutre en se dispersant dans les sols. En fait, cette idée se révèle naïve, souligne Frédéric Auger, ouvrez les guillemets. Certains polluants se dégradant donnent lieu à des dérivés chimiques plus toxiques et plus résistants. Des produits enfouis sous terre peuvent migrer perfidement durant des décennies, voire un siècle et plus, pour ressurgir des dizaines de kilomètres plus loin. Ils peuvent aussi prendre une forme gazeuse et se frayer un chemin vers la surface jusqu'à l'air libre. Les pluies contribuent à les faire voyager et les font partiellement remonter. Fermez les guillemets. On ne sort pas indemne d'un échange avec Frédéric Auger. Même le ministère de l'Environnement, qui lui a demandé de l'aider à faire l'inventaire des sites concernés dans les années 90, s'est affolé devant les cartes qu'il dressait et s'est longtemps refusé à les rendre officielles. Il en comptait entre 350 000 et 400 000 Cependant que le ministère diffusait en 1998 un rapport faisant état de 900 sites pollués. De son côté, l'Allemagne reconnaissait déjà pour son compte un chiffre comparable à ceux du chercheur. Nous avons tenté de lui faire figurer sur une carte de France standard type Michelin ces sites douteux. Mais on s'est vite aperçu que 400 000 points la noircissent complètement. Et il en va de même, bien sûr, pour la carte d'Allemagne. Seules les cartes à l'échelle locale peuvent en rendre compte, comme celle que le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, a réalisée pour concrétiser cet inventaire. À l'ouest du Rhin, comme à l'ouest, nous payons tous l'inconscience de générations de politiques habituées à déléguer aux acteurs économiques les problèmes de santé publique. Les riverains d'installations polluantes, toujours en activité, cumulent les peines. Au-delà des incinérateurs qui, malgré le renforcement récent des normes, restent des sources de pollution atmosphérique, les fonderies, les usines chimiques et les sites de retraitement des déchets toxiques, batteries, ordinateurs, ampoules, piles, ont recraché durant 50 ans et plus des fumées saturées de métaux lourds, et certaines le font encore en dépit des lois. Leur direction a pris l'habitude de menacer de fermer les industries en cas de sanctions. Menace qu'elles mettent d'ailleurs à exécution quand on veut les contraindre à dépolluer leur site ou à assumer les réparations dues aux victimes, comme la multinationale Metal Europe et son usine de Noyelles-Godault, Pas-de-Calais, qui, sans préavis ni indemnité, a laissé sur le carreau 830 salariés un matin de janvier 2003, indifférente aux rodomontades des élus et aux accusations de patrons voyous. L'usine Citron, à Rogéville, près du Havre, a pris un chemin similaire. Cette entreprise, dont la maison mère est basée en Suisse, était censée traiter les déchets dangereux, boues toxiques, piles, solvants, ampoules au mercure, catalyseurs. Elle en a brûlé beaucoup dans des conditions très suspectes, tout en amassant à l'air libre des dizaines de milliers de tonnes de déchets chargés en métaux lourds, benzène, hydrocarbures, manganèse et lithium, autant de substances qui aiment chahuter nos neurones. Le soleil et les intempéries se chargeront de les dégrader, à moins que l'État ne verse lui-même les 10 à 22 millions d'euros pour faire le nettoyage, ce qu'il fera probablement en partie. Après avoir recraché pendant des années des panaches de particules et des nuages toxiques sur les riverains et au-delà, l'entreprise s'est aussi délestée de ses 110 salariés. Il lui a suffi de cesser de payer ses cotisations sur SAF pour être mise en liquidation judiciaire en décembre 2010, énième épisode d'une longue série de condamnations pour des expositions dangereuses aux produits chimiques. Malgré les multiples procès-verbaux dressés contre Citron, dont certains pour défaut de contrôle des rejets en mercure et absence de traçabilité des déchets, la préfecture de Seine-Maritime lui a paradoxalement accordé, en avril 2017, l'autorisation de tripler ses capacités. Sans la mobilisation de l'association Écologie pour le Havre, EPH, et une procédure lancée par France Nature Environnement auprès de la Cour administrative d'appel, elle aurait ainsi pu stocker jusqu'à 490 000 tonnes de résidus toxiques. Mieux vaut aussi ne pas habiter près d'un crématorium. Ces installations où l'on incinère les morts connaissent une activité sans précédent avec la demande croissante de crémation. Aussi surréaliste que cela paraisse, cette mode est devenue aujourd'hui assez importante pour entraîner la multiplication des crématoriums et susciter l'inquiétude des pouvoirs publics. Leur fumée transporte en effet des quantités étonnantes de dioxines et de mercure. Ainsi, en janvier 2010, Sophie Delaporte, directrice générale adjointe du ministère de la Santé, a signé un arrêté pour réduire ces polluants que rejettent leurs cheminées. Si l'on sait que les tissus organiques produisent des dioxines en se carbonisant, d'où provient donc le mercure présent dans les fumées? Évidemment, des amalgames dentaires carbonisés. L'arrêté a fixé l'échéance de 2018 pour procéder à la mise en place des filtres qui permettront aux exploitants de respecter la limite prévue de 0,2 mg par mètre cube de mercure. Le délai est d'une grande souplesse et l'on reste très loin de la limite de 0,001 mg par mètre cube dont l'OMS recommande l'application immédiate, sans parler de la valeur cible de 0,00005 mg par mètre cube qu'elle préconise de viser à l'avenir. Ouvrez les guillemets. Pour le moment, seuls 7 crématoriums fonctionnent avec un filtre sur les 143 qui couvrent la France, ce qui est scandaleux, fermez les guillemets, nous confie Michel Kavnik, président de l'AFIF, Association française d'information funéraire, une organisation soutenue par des professionnels des pompes funèbres qui aimeraient insuffler de l'éthique dans leur secteur. Ouvrez les guillemets. Tous ces crématoriums se contentent de recueillir les particules les plus grosses qui retombent dans un bac à poussière, précise-t-il. En libérant le mercure issu des alliages dentaires des personnes incinérées, les crématoriums empoisonnent littéralement les habitants, sans oublier les dioxines et les fumées des produits de traitement des cercueils, fermez les guillemets, déplore Michel Kavnik, sans crainte de déplaire au lobby confortablement assis sur le marché des crémations et de nos ultimes demeures destinées au feu. Il n'est pas le seul à s'en alarmer, comme le montre le livre blanc que des professionnels ont remis à la Commission européenne en juin 2008. En février 2010, Air Paris, la structure chargée de surveiller la qualité de l'air en Île-de-France pour le compte des collectivités publiques, a procédé à des analyses du mercure à proximité du crématorium du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris. On apprenait à cette occasion que, ouvrez les guillemets, le mercure n'avait jamais été mesuré dans l'air francilien, fermez les guillemets. Air Paris estimait finalement qu'au Père-Lachaise, les taux relevés étaient négligeables, mais il ne disait pas pourquoi il avait choisi de faire ses prélèvements sur ce crématorium qui, depuis 2008, est précisément l'un des 7 à être équipé d'un filtre. Je souhaiterais terminer la lecture d'extrait du livre « Menace sur nos neurones, Alzheimer, Parkinson et ceux qui en profitent », dont les auteurs sont Marie Grossman et Roger Langlais, et le livre est paru chez Babel, dans la collection Essais 2 d'Actes Sud. Je voudrais donc terminer ces lectures par celle de la page 264. Médicaments neurotoxiques au robinet. L'eau, source de vie, est-elle en train de devenir un poison? Cette question aurait paru saugrenue il y a encore quelques années. Elle devient désormais incontournable. La formule chimique de l'eau que nous avons tous apprise à l'école, H2O, est devenue parfaitement introuvable en pratique. S'il fallait écrire la composition de l'eau que nous buvons de nos jours, un tableau entier n'y suffirait plus, car il faudrait aligner environ 3000 molécules différentes, dont une grande partie est d'origine industrielle. Et la liste continue de s'enrichir chaque mois de nouvelles molécules. À eux seuls, les résidus médicamenteux que l'on y trouve imposent d'affronter le problème. En effet, au-delà de la présence d'aluminium et d'innombrables autres substances indésirables, le chlore, les fluorures, le plomb, le mercure, l'aluminium, le benzène, les pesticides, une simple gorgée d'eau prise au robinet nous fait avaler aussi des molécules d'antidépresseurs, de neuroleptiques, d'anxiolytiques, d'antidouleurs, d'antibiotiques, de contraceptifs, de bêta-bloquants, d'hormones, d'antiparasitaires. C'est le résultat de notre propre consommation de médicaments et de leur excrétion quotidienne dans les urines et les selles. S'y ajoutent les résidus médicamenteux provenant des excrétions des animaux d'élevage intensif. Leur évacuation dans les eaux usées semble les éloigner de nous, mais les stations d'épuration et les centres de traitement ne les éliminent pas complètement, d'autant que les boues de stations d'épuration reviennent dans nos verres puisqu'elles sont de plus souvent épandues dans les champs agricoles, d'où elles rejoignent aussi les nappes phréatiques. De fait, notre organisme inocule plus seulement ces molécules par le biais des traitements que les médecins prescrivent, mais à dose continuelle, simplement en buvant et en cuisinant avec l'eau qui coule dans nos éviers. Le premier congrès européen sur les pathologies environnementales, organisé par l'Union régionale des médecins libéraux en octobre 2009 à Rouen, a attiré l'attention sur ce problème. Selon leur nature, 10 à 90% des composés médicamenteux sont rejetés dans les effluents sur les terres cultivées et coulent en partie de nos robinets. Les conséquences de la contamination continue des eaux de boisson par de faibles doses de multiples médicaments sont encore peu connues. Il est cependant légitime de s'interroger sur les effets à long terme de la consommation quotidienne de ce cocktail invisible, sans oublier les probables potentialisations avec celles que nous avalons volontairement et avec les autres polluants environnementaux. Bien que les Français soient les champions européens de la consommation de médicaments et les recordman mondiaux de psychotropes, tous les pays riches sont concernés, comme l'a rappelé l'ANSES en 2011. Cette contamination de l'eau commence à être bien documentée à l'échelle mondiale. La Suède montre l'exemple. Prenant conscience des risques sanitaires qui pourraient affecter la population, ce pays a mis en place depuis 2003 un système de classification des médicaments prenant en compte leur devenir dans l'environnement. À cette fin, l'industrie pharmaceutique doit fournir aux autorités suédoises des données précisant la persistance, le potentiel de bioaccumulation et l'écotoxicité de leurs produits, ainsi que l'évaluation des risques pour la population. Il serait souhaitable que ce système serve de modèle aux autres pays. En France, les résidus les plus fréquents sont la carbamazépine, un antiépileptique, et l'oxazépam, un anxiolytique, dont la présence est liée à l'ampleur des prescriptions, mais aussi à leur biopersistance. On y trouve aussi des antidépresseurs, des hormones contraceptives, des produits de chimiothérapie, du fluor, de l'aspirine. L'AFSAPS et l'ANSES qui ont annoncé en février 2011 les résultats d'une enquête détaillant cette pollution pharmaceutique ne se sont pas réellement prononcés sur le danger. Saisies par la Direction générale de la Santé, elles confessent qu'elles en sont encore au stade où elles, ouvrez les guillemets, travaille à la définition d'une méthodologie générale pour l'évaluation de ces risques. Fermez les guillemets. C'était encore ce merveilleux CD, Duet Konzertant, Vous étiez sur le Proton Surbif. Nous avons parlé du livre extraordinaire de Marie Grossman et Roger Langlais, Menaces sur nos neurones, Alzheimer, Parkinson et ceux qui en profitent, paru chez Actes Sud dans les collections Essais de Babel. Je vous retrouve tous les troisièmes lundis du mois, ainsi que pour les Muses s'amusent, le premier lundi de chaque mois. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, et nous insistons sans le sou, parce que, bien entendu, les subsides attribués aux radios associatives sont en train d'être vigoureusement, mais alors très vigoureusement, rabotés, et Radio Libertaire est en train de perdre une partie très importante de ses revenus, déjà très faibles, comme on peut l'imaginer. Je vous souhaite quand même une excellente soirée. Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.